Culture. Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Le tableau de Antoine Watteau, que l'on a longtemps appelé Gilles avant de l'appeler Pierrot, est pour beaucoup l'une des œuvres les plus fascinantes et les plus mystérieuses de l'histoire de la peinture. Tant par sa facture et la difficulté de saisir la signification de sa composition que par l'incertitude qui plane sur l'année et les circonstances de son exécution. La destinée de ce tableau est liée à l'histoire elle-même fascinante de Dominique Vivant-Denon, le premier directeur du musée du Louvre, qui devint propriétaire du Gilles de Watteau en 1804. 196 ans plus tard, alors que venait de s'achever au Louvre l'exposition « Dominique Vivant-Denon, l'œil de Napoléon », dans l'émission de Pascal Lismonde, « Clin d'œil », Bernard Dufour livrait avec passion sa version de l'histoire d'amour entre Vivant-Denon et ce tableau, en évoquant le lien très puissant qui le liait lui-même au Gilles. Clin d'œil, le Gilles de Watteau par Bernard Dufour, diffusé la première fois le 15 avril 2000 sur France Culture.
Clin d'œil. Aujourd'hui, le Gilles de Watteau par Bernard Dufour, artiste peintre. Le Gilles de Watteau, appelé désormais le Pierrot, mériterait une monographie ou une exposition à lui tout seul. En effet, ce tableau du Louvre a inspiré les poètes, les écrivains, les peintres ou même les cinéastes, ainsi Marcel Carné dans Les Enfants du Paradis. Mais ce qui retient aujourd'hui le peintre Bernard Dufour à propos du Gilles, c'est l'histoire d'une passion, celle d'un collectionneur, surtout quand celui-ci est le premier directeur du Louvre, un certain Dominique Vivant-Denon.
On voit dans un tableau de dimension moyenne, il fait 1,50 m sur 1,20 m dans ces eaux-là, on voit un personnage debout, habillé en blanc, avec un chapeau rond. Il a les mains, les bras ballants, le long du corps, les mains totalement inactives, le visage aussi est absolument inactif et inexpressif. Il se détache sur un paysage, un grand ciel bleu, des arbres, et derrière lui, mais ne dépassant pas la hauteur des genoux, dont il y a une série de personnages qui sont donc comme dans un fossé, ou comme si Gilles était sur un escarpement, et qu'au pied de cet escarpement passe, comme sur un chemin, à gauche un âne avec un singulier bonhomme entouré d'une avec un béret noir et une collerette blanche, et à droite du tableau, donc à gauche du Gilles, trois personnages, un homme en rouge, une femme et un autre homme, les yeux grands ouverts, avec un très bizarre chapeau en forme de rayon de soleil. Et ces quatre personnages, contrairement au Gilles, eux sont expressifs. Voilà. L'âne aussi a un œil très expressif. Donc c'est un tableau extraordinairement énigmatique. C'est à mon avis, non pas le plus beau, on ne va pas faire un catalogue, mais c'est le tableau énigmatique du Louvre par excellence. Et je voudrais parler du Gilles, non pas...
Encore que l'autre tableau de Watteau, l'embarquement à Cythère, qui a aussi suscité...
Vous savez, c'est un tableau qui est beaucoup plus monumental, qui est totalement monumental, et dont la lecture donc est immédiate et extrêmement frappante. Pour entrer dans Cythère, ou à Berlin dans l'enceinte de Gersin, c'est autre chose, c'est deux mondes totalement opposés. Là, on est dans le maximum de simplicité, et dans le maximum d'étrangeté et d'énigme.
Oui, parce que le personnage
moins parler du Gilles et ne pas parler de Watteau, mais parler de la liaison de ce tableau avec son collectionneur, avec les collectionneurs. De la même façon que je m'étais beaucoup intéressé à un moment, il y a quelques années, au rapport qu'avait pu entretenir Breton avec le tableau de Chirico. Car c'est ça qui m'intéresse, la façon comment certains tableaux peuvent voir leur signification, non pas métamorphosée, mais acquérir une signification que le peintre n'avait absolument pas envisagée. Et donc ces tableaux, il est exceptionnel qu'on connaisse leur curriculum vitae comme on connaît le curriculum vitae du cerveau de l'enfant et du Gilles. Je rappelle que le tableau de Chéricault, Breton, le tableau a été peint en 14, le Breton l'a acheté en 19, il passait en autobus rue de la Boétie, il voit un tableau dans une vitrine, il est ébloui, c'est vraiment l'éblouissement, il saute en marche de l'autobus, il entre dans le magasin et il comprend là qu'il faut qu'il l'achète, et il comprend, chose très importante, qu'il est nécessaire qu'il donne de l'argent pour pouvoir l'acquérir. Donc c'est une décision douloureuse, sacrificielle, initiatique. Il achète le tableau, il l'emporte chez lui et il le met dans sa chambre. Et il vivra toute sa vie avec ce tableau. Et donc, il le vendra à la fin de sa vie, parce qu'il n'a pas d'argent, au musée de Stockholm. Et donc, le musée de Stockholm a maintenant un tableau orphelin. Et le mur de Breton au centre Pompidou est privé de sa plus fantastique pièce, qui était vraiment l'idole absolue de Breton. Et je me suis aperçu, à travers l'exposition de Vivant Denon, là, récemment, que le Gilles, qui est le tableau que je préfère, au Louvre, avait connu un destin extraordinaire, comme ça. C'est-à-dire qu'il a été peint à la fin de la vie de Watteau, en 1820, on donne des dates, 15-21, Watteau meurt en 21, donc c'est un des derniers tableaux avec Gersin. Et le tableau, maintenant, les historiens du Louvre semblent absolument convaincus que ce tableau est le portrait d'un comédien ami de Watteau, comédien, son nom m'échappe, qui était devenu bistrot, et que le tableau a été peint et que comme enseigne de ce bistrot. Donc ce tableau a été rue Quincampoix, au coin de la rue Aubry, je ne sais pas quoi, pendant des années. Après, ce tableau a disparu de la circulation, plus personne ne sait ce qui s'est passé. Et un jour, en 1804, Vivant Denon, pendant le cours, déjà les campagnes d'Égypte et les campagnes d'Égypte étaient déjà passées, naturellement. Mais il était en plein dans les campagnes de pillage de l'Europe. Et tout d'un coup, il passe devant un brocanteur et il voit ce tableau. Il passe et repasse et repasse. Il en parle à son ami David, qui lui détestait le 18e. Et donc, il veut empêcher Vivant Denon d'acheter ce tableau. Et finalement, Vivant Denon l'achète. Et ce tableau va l'accompagner toute sa vie. Et c'est fantastique, parce que Gilles, Vivant Denon, habite au Louvre, au-dessus des guichets du Louvre, un appartement somptueux, et quand il démissionne, il va en face, quai Voltaire, et le Gilles se retrouve là. Et maintenant, en 69, il entre au Louvre. C'est-à-dire que ce tableau n'a jamais quitté cet endroit. Bon. Alors, ce qui m'intéresse, moi, donc, c'est le rapport du tableau à son propriétaire, mais c'est aussi à travers quelle passion les gens achètent, acquièrent des tableaux. Donc je vais aller très vite là-dessus, parce que malheureusement les gens s'intéressent, il faut absolument qu'ils lisent le catalogue du Vivant Denon et toutes les annexes et tous les documents concernant cette époque. Vivant Denon, donc, lui, achète des tableaux, comme Breton. Il achète. Bon, il donne son argent, il a un tableau. Quand les tableaux sont trop chers, alors là, ils les font acheter par quelqu'un. Breton choisit Doucet et lui fait acheter des tableaux considérables, comme la Demoiselle d'Avignon. Vivant Denon fait la même chose. Et il caractérise cet acte en disant « je jouis un peu en passant ». C'est-à-dire, quand on a le tableau soi-même, on en jouit tout le temps, mais quand on l'achète pour le faire acheter par quelqu'un d'autre, on jouit un peu en passant. Je trouve ça absolument fantastique. C'est très 18e et en même temps d'une précision formidable. Bon. Ça, c'est la deuxième méthode, faire acheter par quelqu'un. Et la troisième méthode, que Breton n'a pas du tout pratiquée, c'est le vol. Alors ça, Vivant Denon va devenir, grâce à Napoléon et à la force de l'armée française, le plus grand voleur de nombreux siècles, comme ça.
Puisqu'il va légaliser, malgré tout.
Oui, non, mais légaliser, mais ça ne change rien. Vous comprenez, c'est du butin, c'est de la prise de butin, c'est des trophées. Bon, tout ça est soutenu par l'idéologie des Lumières, et en même temps par une espèce de folie française que Paris est la seule ville du monde, que nous sommes seuls capables d'avoir des tableaux, donc nous ramassons absolument tout en Europe. Et en même temps, les gens qui sont pillés, les conservateurs allemands notamment, jouent ce jeu de l'idéologie. Donc, ils laissent partir les tableaux. Bon, là, on va aller vite parce que c'est colossal, cette affaire. Ensuite, les tableaux, les alliés reviennent à Paris. Ils ne veulent pas reprendre les tableaux, mais il y a Waterloo. Le peuple français a soutenu Napoléon au retour de l'île d'Elbe. Et les alliés sont absolument furieux. Et les anglo-saxons, à leur habitude, disent textuellement, cité par Rosenberg, on va leur donner une leçon de morale à ces Français. Donc on dépouille le Louvre. Et le Louvre est complètement à nouveau pillé au nom d'une autre idéologie. C'est-à-dire toutes les idéologies ont basculé en quelques années, en 4 ans, et on se trouve maintenant devant l'idéologie des nationalismes. Et les Allemands particulièrement veulent récupérer leurs tableaux pour des raisons purement nationalistes. Et alors là, le pauvre vivant de nom comprend que tout ce qu'il a pillé en Europe, et pour en faire le plus grand musée du monde, en France, à Paris, etc., tout ça, c'est complètement foutu. Et donc, tout part. Alors, le pauvre vivant de nom est complètement désespéré, parce que c'est l'homme le plus passionné qu'on puisse imaginer. Je veux dire, je n'ai jamais connu d'homme aussi passionné. Il a mis sa vie là-dedans. Le pauvre vivant de nom abandonne son Louvre complètement pillé. Il prend son appartement en face, et là, il réinstalle son Watteau, comme ça. Et il a des dessins, le catalogue Vivant de Nom montre des dessins, où on voit des vues faites par Vivant de Nom, des vues de son appartement, on devine dans un espace, à travers une porte, le Watteau, le Gilles, et qui voit le Louvre à travers la Seine. Donc on se retrouve dans une espèce de configuration extraordinaire, et ça me fait énormément penser au mur de Breton, tout ça. Il y a un dessin où on voit dans cet appartement tous les amis de Vivant de Nom et Vivant de Nom ôter les bandelettes d'une momie. Ils sont complètement obsédés par tout ça. Bon, et donc le rapport, la signification nouvelle que peut avoir ce tableau par rapport à Vivant de Nom, quand Vivant de Nom visite l'Égypte dans la toute première partie de la campagne, il voit les colosses de même nom et il dit « Cette simplicité de pose, cette nullité d'expression a quelque chose de grave et de grand qui en impose. Ces statues, il faut y avoir longtemps réfléchi. » C'est-à-dire que vous... Et en 1804, il trouve, il peut dire cette phrase absolument géniale, c'est génial, un pareil jugement de critique. Il trouve ça exactement les mêmes caractères dans le Gilles. Simplicité de pose, nullité d'expression. On ne peut pas mieux dire. Et donc, tout d'un coup, en quittant l'exposition du Louvre, je voulais monter à la salle où était exposée la collection, il fallait gravir un escalier. Et en haut de cet escalier, très loin, comme ça, il y avait une sorte de colosse de même nom, énorme, tout d'un coup, complètement sans aucune proportion réelle, sans rapport avec rien, qui était le Gilles. Et on ne voyait pas les personnages de la comédie italienne en bas. On ne voyait en haut de cet escalier comme dans une pyramide. Comme si j'étais vivant de nom dans une pyramide. Ou comme si j'étais dans le désert en train de voir les colosses. Là-haut, il y avait Gilles. Et ça m'a tellement impressionné. J'ai décidé de ne pas monter le voir de près. Et j'ai décidé de ne jamais plus aller voir Gilles au Louvre. Je veux garder cette image extraordinaire de ce colosse comme ça. Et je souhaite qu'au tout dernier moment de mon agonie, je puisse voir ce colossal Gilles, comme ça. Voilà ce que je veux dire sur Gilles. Le Gilles de Vivant de Nom. On est tellement habitué à dire le Gilles de Watteau, on peut dire une fois de temps en temps le Gilles de Vivant de Nom.
Thank you.
C'était le Gilles de Watteau par Bernard Dufour, au micro de Pascal Lismonde dans Clin d'œil, diffusé la première fois le 15 avril 2000 sur France Culture. Téléchargement et réécoute sur le site de France Culture et sur l'application Radio France à la page des Nuits de France Culture.